MCITV vous présente Bonjour chez vous, l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous pour un thème très très rigolo puisque nous allons parler du rire. Le rire est-il spirituel? Et ne changez pas de chaîne tout de suite, ne zappez pas une autre vidéo. Pour ceux qui ont du mal avec ça, eh bien, on va en parler aujourd'hui, on va décortiquer, on va expliquer ce que c'est. Puis oui, on va aussi parler que parfois ça peut être très charnel. Ne vous en faites pas, tout ceci sera pleinement équilibré. N'est-ce pas Frank et Annabelle?
Bah, sûrement pas Frank. Là, c'est charnel.
Absolument. On a discerné.
Mais rire comme ça, charnellement, c'est très bien aussi.
Ça fait du bien.
Et ça fait du bien à ton corps.
Exactement, voilà. C'est ça. Mais oui, on va parler ça. On va parler du rire. Et on va forcément faire un flashback sur Kenneth Hagin. C'était obligatoire.
Oui. Kenneth Hagin, on va découvrir sa naissance, sa nouvelle naissance et sa guérison.
Donc, ce ne sera pas forcément drôle, en fait.
Pas dans celle-ci.
Pas dans celle-ci.
Mais intense. Je manque de mots pour décrire. Faudrait reprendre la parole en ce moment.
D'accord. C'est que tu as 12 minutes de flashback après. Hein. Allez, on va commencer tout de suite cette émission pleine de joie et de bonne humeur avec la pensée du jour.
Quand on lit la Bible, s'il y a bien une personne qui est très spirituelle, même très, vraiment ultra spirituelle, c'est bien l'apôtre Paul. Je pense qu'on est tous d'accord pour se dire Paul était très spirituel. Et pourtant, c'est Paul qui dit aux Philippiens et aux Thessaloniciens de se réjouir. Il a dit aux Philippiens, réjouissez-vous toujours, et aux Thessaloniciens, soyez toujours joyeux. Cet homme ultra spirituel a donné comme consigne, a donné comme mot d'ordre dans deux de ses épîtres de se réjouir, d'être dans la joie. Alors une joie, est-ce que ça va être une joie cachée dans le cœur, une joie secrète? Non, quand on parle de joie et même quand Paul parle de joie, il parle d'une vraie joie. Il parle d'une joie qui s'exprime par notre façon d'être, qui s'exprime par le sourire, mais qui s'exprime aussi par le rire. Et la Bible nous dit dans le Proverbe 17:22, un cœur joyeux est un bon remède, un esprit abattu dessèche les os. Et vous savez, il y a tellement de personnes qui en ce moment souffrent parce qu'il y a elles ne voient aucune source de joie dans leur vie, aucune source de réjouissance, et leur vie c'est os desséchés, c'est sec, c'est difficile. Et vous rencontrez des gens qui ont quelquefois très peu, qui vivent des difficultés, qui vivent des choses difficiles, mais qui ont su garder cette joie, qui ont su garder un esprit joyeux, et vous pouvez les voir passer à travers n'importe quelle circonstance, à travers n'importe quelle saison. Alors moi, j'aimerais vous demander, lequel est plus spirituel finalement? Est-ce que c'est la personne qui a su rire au milieu de ces circonstances? Est-ce que c'est la personne qui a su saisir et vivre dans la joie, peu importe les circonstances? Ou alors, est-ce que c'est une personne qui est triste, qui est désespérée, qui est déprimée? Est-ce que cette personne-là représente vraiment plus Dieu? Est-ce que cette personne-là est vraiment plus spirituelle? Eh bien non, je ne le crois pas. Alors Paul nous l'a dit, réjouissons-nous toujours, soyons toujours joyeux, et c'est ce que nous voulons faire parce que c'est un mot d'ordre divin, un mot d'ordre qui vient directement du Seigneur. Alors je ne peux que vous encourager à rire un peu plus.
Amen.
Merci Annabelle. Moi j'ai une question à vous poser. Essayez de penser à votre dernier fou rire que vous avez eu, et bon, si vous n'arrivez pas à le trouver, c'est qu'il remonte malheureusement peut-être à trop loin. Mais souvenez-vous d'un bon gros fou rire que vous avez eu, vous savez, celui où vous allez même pleurer, vous aurez peut-être même une barre au niveau des abdominaux tellement vous aurez ri. Et souvenez-vous comment vous vous sentez après ce fou rire. On se sent tellement bien après un fou rire, et Frank est déjà en train de se souvenir de son dernier fou rire qui doit dater de, il y a quoi, 10 minutes, parce que on fait environ 10 minutes par jour.
Non, j'en ai eu un bon avec ma femme l'autre soir en écoutant un film. J'ai vraiment ri.
C'est le film qui était drôle ou c'est juste un délire?
Non, c'est le film qui était drôle, mais parfois, moi, je peux avoir des fous rires en me rappelant mes fous rires.
Oui, c'est ça.
Seul. Et d'ailleurs, j'ai eu un fou rire cet été avec mon frère. Ou est-ce que t'as des éclats de rire qui sortent, mais c'est tellement, c'est violent quasiment, tellement que tu ris, puis on riait, et quand j'y pense, ça me fait rire.
C'est génial, ouais. Mais c'est puissant en fait, parce que oui, on peut regarder notre verset du jour, tu l'as cité, hein, puis je crois que ce verset, on doit vraiment le comprendre, Proverbe 17 au verset 20 dit « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. » Et en fait, c'est ça, c'est que dans ces moments de joie intense, de rire intense, bien sincèrement, il se passe quelque chose et je ne vais pas vous faire un cours de chimie du cerveau et des cellules et tout ça, je ne suis pas très bonne là-dedans.
Oh, mais... Evelyne.
Bon, d'accord, je suis très bonne là-dedans.
Docteur Evelyne.
J'ai mis ma blouse aujourd'hui. Mais en fait, le corps va sécréter vraiment des hormones, les hormones de la joie, et ça va faire du bien à nos cellules, ça va faire du bien à nos organes, et ça va même faire du bien à nos os, puisque la Bible en parle, qu'un cœur abattu va dessécher les os. Et en fait, le rire fait du bien. C'est quelque chose que Dieu a voulu. La joie, le rire, c'est des choses que Dieu nous a données. La joie est un fruit de l'esprit, d'ailleurs. Donc, ça ne sort pas de nulle part, en fait.
Non. Et la Bible, comme dans d'autres endroits aussi, va être à l'avance sur ce que la médecine aujourd'hui va prouver.
Oui.
Donc, des thérapies de rire, ça existe. Et c'est prouvé que ça fait du bien à ton corps physique, à ton âme. Et les gens, évidemment, qui sont dépressifs, etc., il y en a beaucoup que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas ri, ils ont besoin de rire. Mmh. Et des fois, tu commences naturellement et tu te forces à rire, et puis ça va venir, et à un moment donné, tu ris, et ça fait du bien.
Eh oui.
Mais là, il y a le rire dans l'esprit aussi, Evelyne.
Oh! Tu passes à un autre niveau, là.
Ah oui, le rire dans l'esprit, et là, ça dérange beaucoup de personnes, parce que beaucoup ne l'ont pas vécu. Mais évidemment, ça existe. Je l'ai vécu quelques fois dans ma vie, des rires très profonds. Où est-ce que tu dis, mais de où est-ce que ça sort, ce truc? C'est extraordinaire. Et quand tu penses, et évidemment, on revient à ce fameux passage, hein, quand les disciples ont été remplis de l'esprit, les gens pensaient qu'ils étaient ivres, qu'ils étaient sous, tellement qu'ils... Et quelqu'un qui est ivre ou qui est sous, ben, soit qu'il va être violent. Je ne pense pas qu'ils étaient violents. Je pense qu'ils n'étaient pas malades non plus. Je crois qu'ils riaient et ils étaient hors de contrôle et que ça devait être quelque chose. Et ça devait être vraiment quelque chose à voir et à vivre comme moment. Mais c'est des choses que quand on ne l'a pas vécu, c'est facile de pointer du doigt. Et je sais aussi qu'il y a eu il y a des excès, comme dans le monde de l'esprit. Il y a eu des excès lors des réveils. Il y a eu l'authentique mouvement de l'esprit. Mais tu as de la chair aussi qui est là. Et tu as des personnes qui veulent charnellement essayer de vivre ce que d'autres vivent dans l'esprit.
Oui.
C'est pas parce qu'il y a de la chair ou des gens charnels que ça enlève l'authentique.
Tout à fait.
Quand je pense au réveil de George Whitefield dans les années 1700, les gens étaient visités dans les fonds des bois des États-Unis, des colonies qui étaient là. Et les gens riaient et riaient dans des petites églises, de fonds de bois qui étaient là. Et d'autres tombaient sous la puissance de l'esprit, d'autres pleuraient. Et c'est pas parce que... Tu vois, ça fait longtemps que ça existe. C'est pas un nouveau truc, là. C'est pas le Saint-Esprit a commencé à répandre sa joie, là, dans les 30 dernières années. C'est pas comme ça. Et quand on a vécu l'authentique, tu sais que c'est vrai. Mais là, il faut savoir trier. Et prendre ce qui est vrai et puis le vivre, parce que c'est une bénédiction.
Exactement. Et tu parles du rire dans l'esprit. Mm-hmm. On a une petite vidéo pour vous illustrer un petit peu à quel point le Saint-Esprit parfois peut se manifester de manière surprenante. Mais je veux avant tout juste préciser que ça concerne le ministère de Kenneth Hagin, dont Frank va parler tout à l'heure, qui était vraiment un homme de Dieu, réellement. Mais Dieu se servait de lui de cette façon-là. Et les gens étaient vraiment visités et de manière incontrôlable, se mettaient à rire énormément. Peut-être que vous avez déjà vu des vidéos, peut-être que ce sera la première fois. Mais je vous invite à avoir le cœur ouvert, mais ça peut surprendre. Mais c'est comme ça que Dieu se servait de cet homme de Dieu-là.
Juste pour préciser aussi, même lui le disait dans ses réunions, Dieu lui a parlé et il lui a même dit que, ben voilà, il va avoir une action de l'esprit qui va se faire dans les prochaines années de ton ministère. Et Dieu lui avait dit, quand tu vas t'approcher, de plus en plus proche que tu vas être des gens, de plus en plus fort, l'onction et ma grâce et ma présence va se manifester dans la vie des gens. Donc, il y a des gens dans l'auditorium qui rient naturellement parce qu'ils voient ce qui se passe.
Oui, et c'est juste drôle.
C'était drôle. Mm-hmm. Moi aussi, j'aurais ri. Je ris encore en le voyant. Et t'as ceux qui étaient proches et qui sont saisis, en fait.
Oui.
Et c'est une réalité que lorsque, dans des réunions comme ça, tu es près de la personne que Dieu utilise, quand de plus en plus que tu te rapproches, waouh, tu sens la présence de Dieu, c'est l'onction de Dieu, c'est l'esprit qui est là et qui se manifeste. Et puis, ben voilà, ils peuvent regarder la vidéo.
C'est ça.
As your captivity been firm? Four!
C'est surprenant.
C'est comme ça que ça se passait. Et puis dans ces réunions, il y avait des temps où est-ce que c'était des réunions de l'esprit, c'était un homme de l'enseignement, de la parole, vraiment dans la parole, qui prenait au sérieux la parole, mais à un moment donné, Dieu lui avait dit, la parole, elle est là, elle est enseignée, mais maintenant, il faut vivre l'esprit aussi. Mm. Donc la parole, c'est une chose, et quand on va être trop, tu vois, là, tellement, je veux pas mépriser la parole du tout, mais tellement selon la parole, que des fois, on se ferme à ce que l'esprit veut faire. On devient trop rigide, entre guillemets. Et puis, comme j'ai dit, ça se passe, c'est réel. Tu voyais la dame à la fin, à côté du monsieur là, qui riait, il était rouge. La dame à côté, elle essayait de se contenir, tu vois. Elle était là, elle essaie. Mais moi, c'est quand je l'ai vécu aussi, une des fois en particulier, j'essayais de... Tu luttes un peu contre ce que Dieu veut faire. Et soudainement, ça sort. Et ça vient du plus profond de toi.
C'est ça.
Et c'est bien. Et il y a des gens qui sont délivrés, il y a des gens qui sont guéris, il y a des gens qui sont relevés, des choses que tu ne pourrais même pas imaginer lorsque ça se passe. Mm-hmm. Et d'autres sont visités et goûtent à la puissance de Dieu.
Exactement. Avant de te donner la parole, j'aimerais quand même rappeler le témoignage d'Audrey Max. Si vous ne l'avez pas vu, dans la rubrique « C'est mon histoire », elle avait partagé comment elle a été guérie d'un cancer des os en se mettant simplement à rire.
Ouais.
Mais elle a été guérie de dépression aussi, également, Audrey Mac. Donc, on a aussi eu plusieurs témoignages qu'on a reçus de personnes qui ont été guéries de dépression au travers des fois des émissions de Paroles de Femmes, de Bonjour chez vous. La bonne humeur, la joie a fait que les gens ont réappris à rire. Et je sais que parfois, certains sont fatigués d'entendre rire sur le plateau, mais je crois que la joie est quelque chose de bon et quelque chose qui fait du bien. Et encore une fois, parfois ça peut être charnel, parfois c'est spirituel, mais il faut être sensible à ce que l'esprit veut faire. Et puis, pourquoi pas se laisser surprendre tout à coup, se mettre à rire, comme c'était le cas dans la vidéo. On va maintenant découvrir donc l'histoire de Kenneth Hagin avant qu'il soit celui qu'on a vu dans la vidéo, dans la rubrique Flashback.
Ouais, donc Kenneth Hagin, vous l'avez vu dans cette vidéo, et pour vous qui ne le connaissez pas, il est le fondateur des écoles bibliques Rhema. La première école biblique était aux États-Unis, justement, dans l'État de l'Oklahoma. Et évidemment, avant d'être cet homme de Dieu que Dieu a vraiment utilisé pour pouvoir enseigner son peuple, il y a énormément de livres qui ont été traduits en français aussi de Kenneth Hagin. D'ailleurs, ce qui est agréable, c'est que ces livres sont petits, donc sont faciles à lire. Et puis, on a souvent présenté ces livres ici parce que, ben voilà, c'est un super homme de Dieu avec un très bon enseignement. Mais avant d'être cet homme de Dieu, en 1917, il est né le 20 août 1917 de façon prématurée. Sa mère s'appelait Lily Hagin et son père Jess Hagin. Et il est né prématurément et il pesait moins de 2 livres. Donc, en 1917, quand
un kilo,
bébé...
Ça
fait 1 kilo.
Ouf! Tout petit bébé.
Ouais, parce que c'est 2,2 fois plus lourd. Mm-hmm. Donc, c'est 1 kilo. Un extrêmement petit bébé, prématuré. Le médecin, lorsqu'il l'a vu dans la maison, en fait, il a vu le bébé. Il a regardé la maman. Kenneth, lorsqu'il est né, il ne bougeait pas, ne montrait pas de signe de vie. Mm. Et sa grand-maman était là lors de l'accouchement, la grand-maman de Kenneth. Le docteur s'est tourné vers la grand-mère. Il a dit, prenez le petit, allez creuser un trou, enterrez-le parce qu'il est mort et il ne vivra pas. Mm. Et donc là, la grand-mère était sous le choc. Elle prend le petit et puis la maman, elle venait d'accoucher, était là dans la maison. Et la grand-maman s'en va avec le tout petit Kenneth dans ses mains. Elle allait chercher une pelle pour aller creuser un trou dans leur jardin. C'était comme ça qu'ils faisaient à cette époque-là. Et lorsqu'elle a trouvé sa pelle, elle a vu un signe de vie en lui. Mm. Il y a eu comme un mouvement, une action qui était là. Elle court à l'intérieur. Elle a dit au médecin, « Médecin, j'ai vu un signe de vie. Regardez, regardez. » Le médecin voit et il semble y avoir quelque chose, mais il était tellement petit qu'il lui dit, « Bon, on va lui préparer quelque chose à boire. » Mais certainement que la préparation qu'on va lui faire va durer plus longtemps que qu'est-ce que lui va durer sur cette terre. Et donc, il lui donne, il lui donne à boire. Et là, Kenneth, de façon surprenante, il commence à grandir, ne meurt pas. Mais les années passent et il passe des tests, des examens et il se rend compte qu'il a une malformation du cœur. Il a une maladie incurable au niveau du sang. Et puis, il a une enfance qui est complètement différente des autres parce qu'il ne peut pas courir, s'amuser comme les autres avec cette malformation de cœur qui était là. Et les médecins lui avaient dit, on ne sait pas quand est-ce qu'il va mourir, mais certainement qu'il va mourir aussi. Mm. Et puis, voilà. Donc là, à l'âge de 9 ans, il se retrouve dans une église et il a grandi Southern Baptist aux États-Unis. C'est une grande dénomination. Il a grandi dans ce réseau d'églises-là. Et puis, l'enseignante d'école du dimanche a dit aux enfants, « Qui va aller au ciel? » Et là, il lève sa main, évidemment, et les autres enfants, ils disent, « OK, qu'est-ce qu'on va faire? » C'est lorsque le pasteur va faire un appel à la fin de la réunion, « Avancez-vous en avant et faites la prière qui va vous dire, vous allez pouvoir aller au ciel. » Et tout le monde voulait aller au ciel. Il a 9 ans, il dit, « OK, je vais le faire. » Le temps de l'appel arrive, il va en avant, fait la prière, se fait baptiser d'eau, avec les autres aussi qui ont fait la prière. Et puis, il continue à vivre sa vie comme il le faisait auparavant. Les années passent et il se retrouve qu'il a 15 ans. Et là, il est sur son lit de mort. À 15 ans, il y a eu 5 différents médecins, 5 différents docteurs qui sont venus. Ils ont dit, c'est fini pour lui. Et il y en a même un qui a dit, il y a une chance sur 1 million de survivre, ce jeune-là. Oubliez-le, c'est sûr qu'il meurt. Et donc là, on se retrouve dans le mois d'avril 1933. Le 22 avril 1933, très précisément, et c'est lui qui a raconté aussi cette histoire-là, au 405 de la rue Collège Nord, dans la ville de McKinney, au Texas.
C'est précis.
À 7h30 le soir, il était dans la maison de son grand-papa, parce que sa mère, à Kenneth, ses frères et ses sœurs, habitaient dans la maison de ses grands-parents. Et là, il était sur son lit et il sentait que ça allait frapper. La mort arrivait. Mm. Et il était sur son lit de mort. Et puis, il entend, il dit, il y avait une horloge sur le manteau du foyer de mon grand-père. Et là, ça l'a 7h30 a frappé. Pouf! Et il a dit, j'ai senti au niveau de mes orteils, mes chevilles, mes jambes, mes genoux, mes hanches, tout a commencé à s'engourdir. La circulation s'est arrêtée. Il dit, j'ai senti la circulation s'arrêter. Ça l'a frappé mon cœur. Et à ce moment-là, je suis parti. Il dit, j'ai sorti de mon corps, comme un plongeur plonge dans l'eau, j'ai comme sorti de mon corps. Et j'ai vu la scène, ma grand-mère était là, ma mère était là, il y avait mon petit frère qui était là, son petit frère à lui. Et là, il dit, j'ai vu ma grand-mère prendre mon corps dans ses bras. Et là, soudainement, je me suis senti descendre dans un tunnel comme une caverne. Et ça, c'est son témoignage à lui de ce qu'il a vécu à ce moment-là. Et il a dit, ça devenait de plus en plus noir. Et il a dit, c'était de noirceur. La noirceur était tellement épaisse que tu aurais pu comme prendre un couteau pour couper dans la noirceur, tellement que c'était lourd. Il dit, je pouvais même pas voir ma main tout près de mon visage. C'était impossible. Et de plus en plus que je descendais, de plus en plus que je sentais une chaleur qui commençait à monter. Et il dit, je me suis retrouvé à un endroit où est-ce que je voyais juste des reflets orangés. Et il s'est dit, j'arrive en enfer. Mm. Et en arrivant où est-ce qu'il était, il a vu comme une porte d'entrée, une clôture, si on veut. Voilà, c'est ça, comme une entrée. Et il s'est dit, du moment que je traverse là, c'est fini, je ne peux plus retourner. Et il a dit qu'il a senti quelque chose arriver à côté de lui, une présence. Et il n'a pas voulu la regarder, mais la présence l'a pris par le bras droit. Et bien des années plus tard, dans la parole, il a lu un verset qui lui a parlé dans Ésaïe 14, le verset 9. La parole dit « Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. » Et il a dit « J'ai été accueilli à mon arrivée dans le séjour des morts, là où est-ce que j'étais. » Il y avait quelqu'un qui me prenait pour m'amener et il dit « Le moment où je traversais ça, c'était fini. » Et il a entendu une voix forte qui est venue. Il a dit « Je ne comprenais pas la langue, je ne savais pas, ce n'était pas de l'anglais, ce n'était pas du français. » Il dit « C'était une langue et c'était une voix masculine, une voix forte. » Et lorsque la voix a parlé, tout a tremblé et la créature a lâché mon bras. Fouf! Et je me suis senti être comme un aimant qui attire quelque chose. Je suis reparti et je me suis retrouvé sur le balcon de ma maison. J'ai traversé le mur et je suis revenu dans mon corps. Et là, il a dit, quand je suis revenu dans mon corps, j'ai regardé ma grand-mère et j'ai dit, grand-maman, grand-maman. Il appelait mamie, mamie. Où est maman? Où est maman? Elle lui dit, oh, j'aurais pas pensé que tu serais revenu ici. Il dit, je pensais pas moi non plus revenir. Où est maman? Je veux voir maman. Et là, évidemment, il avait 15 ans. Et là, sa grand-mère lui dit, maman est partie dehors et elle prie. Et là, il a entendu sa mère prier d'une voix tellement forte. Sa mère criait à Dieu, en fait. Il y avait une intercession qui se passait. Et il a dit, mais va chercher maman, je vais lui parler avant de repartir. Je sens que je vais repartir. Et sa grand-mère, comme quitte, s'en va pour quitter la pièce. Et là, il sentait qu'il repartait encore. Et il a dit, non, mamie, reste ici. Je veux pas être seule, je veux pas partir seule. Et là, sa grand-mère le prend dans ses bras encore. Et il ressent la même chose surpasser. Il repart dans le tunnel. Et c'est arrivé deux autres fois encore. Il est descendu, une voix a parlé, il est remonté. Il s'est retrouvé cette fois-ci quand il est remonté à côté de son lit. Et il a dit, je me suis vu rentrer dans mon corps à nouveau comme si on met un pied dans un soulier. Comme ça. Et là, je disais, oh, « Mamie, je suis revenu. » Il dit, « Ouais, ça, mamie. » Il dit, « Ben, je pensais pas te revoir encore. » Il a dit, « Moi non plus. » Et là, il dit, « Dis à grand-papa que je l'aime. Dis à maman que je l'aime. » Et là, il commençait à faire... Il dit, « Si je repars, je reviens plus. » Il est reparti. Et alors qu'il descendait la troisième fois, il s'est mis à crier. Il a dit, en descendant dans le tunnel, il a dit, « Dieu, j'appartiens à l'Église. J'appartiens à l'Église. J'ai été baptisé d'eau. » Il a dit trois fois. Et malgré ça, il s'est retrouvé au fond. Et là, la troisième fois, comme j'ai dit, la voix a reparlé. Et alors qu'il a commencé à repartir vers le haut, sa mère était encore là en train de prier à l'extérieur, dans le naturel. Elle priait, elle criait, supposément que c'était tellement fort que les gens dans le quartier entendaient et ça l'avait créé quelque chose. En fait, les gens se posaient la question, mais qu'est-ce qui se passe? Il est revenu et pendant qu'il remontait, il a commencé à prier. Et il avait commencé à dire... « Ô Dieu, je viens à toi au nom de Jésus. » Et alors qu'il priait, il est revenu dans son corps et la phrase a continué dans le monde naturel, dans le monde physique. « Je te demande pardon pour tous mes péchés. Lave-moi de tout péché. » Et là, il est né de nouveau, pouf, à ce moment-là. Mais il n'était pas guéri. Donc là, il a fait face à la mort, face à l'enfer. Croyez-moi, l'enfer existe. Ça, c'est son témoignage à lui, mais vous le croyez ou pas, la parole n'en parle, c'est une réalité. Les mois passent, et là, en novembre 1933, donc il est resté vivant plusieurs mois à nouveau. Donc ça, c'était le mois d'avril. On avance au mois de novembre 1933. Et là, il est sur son lit, il était paralysé, malade toujours, malformation du cœur, faible. Il pesait 89 livres. Ça l'équivaut à 40 kilos, disons. À l'âge de 15 ans, où il avait eu 16 ans, je crois, à ce moment-là, il avait eu 16 ans. Il pesait 40 kilos. Et là, il est là couché sur son lit constamment parce que, voilà, il est paralysé. Il entend en dedans de lui, parce qu'il était né de nouveau à ce moment-là, ça lui dit, tu peux guérir. Tu peux être guéri. Et là, lui, à haute voix, il dit, mais si je peux être guéri, ben comment est-ce que ça se fait? Et en dedans de lui, il entend, C'est dans le livre, en parlant de la parole de Dieu. Et là, il a commencé à lire la parole par lui-même. Il n'allait pas à l'église, il n'y avait pas de pasteur qui venait le voir, ça c'est ce qu'il dit. Mm-hmm. Il a commencé à dévorer la parole et il est tombé sur Marc, chapitre 11, les versets 23 et 24. Mm-hmm. Et quand il a lu Marc 11, versets 23 et 24, ce sont le verset qui a catégorisé Kenneth Hagin, si vous le connaissez, ça l'a marqué. Et dans son lit, il était là, il l'a lu, et là il a dit, c'est ça. Il a saisi en fait que ce qu'on demande à Dieu, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Oui. Et donc là, il a commencé à croire, mais il comprenait pas forcément trop comment que ça se passait. Et là, les mois passent encore. Écoutez-moi, ça s'est fait sur plusieurs mois. On avance et on va au mois d'août 1934. Le 8 août 1934, ça fait maintenant 16 mois qu'il est alité sur son lit, paralysé, toujours malade. Même s'il a reçu cette révélation de Marc 11, verset 23-24, il est toujours malade et affligé. Il ne comprend pas comment que ça va se faire, donc il commence à lire et relire et relire le verset, et ça commence à prendre un sens à l'intérieur de lui. Et là, il commence à déclarer le verset à haute voix, et il commence de plus en plus à entre guillemets, à y croire. En fait, la parole devient un réma pour lui, que ce qu'on demande, on doit croire qu'on l'a reçu et on va le voir s'accomplir, même si naturellement, il ne l'était pas. Et là, il a commencé à dire « Merci Seigneur pour la guérison dans mon cœur. Merci Seigneur pour la guérison de cette paralysie. » Sur son lit, personne ne l'a enseigné, personne ne lui a dit de faire ça, personne lui... Il a juste eu cette conviction et c'est commencé à sortir à l'intérieur de lui. Il a dit, j'avais une envie de louer le Seigneur pour ma guérison, alors qu'il ne s'était jamais fait dire ça, de faire ça. Il a dit, merci Seigneur pour la guérison de la maladie incurable du sang qui m'afflige. Je crois que j'ai été guéri du haut de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Et il a dit, j'ai commencé à dire, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Il a dit, j'ai jamais dit ça de ma vie. Il a commencé à dire, Alléluia, Alléluia. Et là, il a entendu une voix à l'intérieur de lui dire, maintenant que tu crois, lève-toi. Et là, il a agi sur sa foi. Il est sorti de son lit pour la première fois depuis 15 ans. Sa mère le lavait, faisait tout pour lui. Il ne mangeait plus. Il était là. Et là, il s'est levé. Il est sorti de son lit. Et pendant les deux prochains jours, il s'est dit, je ne vais pas dire à personne que je suis guéri. Ben, tous les fois, je dis que je parle de guérison. Ils me disent, ben, Dieu, il est souverain. S'il veut te guérir, il te guérira. Puis là, lui, il a dit, ben, toutes les fois que quelqu'un me disait ça, le diable, il venait me dire, Dieu, il ne veut pas te guérir. Et donc, je ne peux pas être dans la foi. Et donc, pendant les deux prochains jours, il se levait le matin seul, il commençait à marcher dans sa chambre. Il bâtissait sa foi avant que quelqu'un vienne l'écraser, lui dire « Non, tu n'es pas guéri, tu ne peux pas être guéri. » Il a commencé à... Et là, à un moment donné, il a dit à sa mère, « Maman, je veux déjeuner avec vous ce matin, prépare mon linge.
Wow. »
Sa mère a dit, « Mais non, tu ne peux pas faire ça, tu sais qu'elle... » Ça l'a pris 40 minutes de convaincre sa mère de ce qu'il devait mettre son linge et aller déjeuner avec ses grands-parents. Finalement, sa mère écoute, il s'en va... Et quand il est arrivé dans la cuisine, son grand-père a dit, « Hey, les morts sont ressuscités ici! » Il a dit, « Lazare est sorti! » Et là, Kenneth a dit, « Oui! » Il s'est assis, il a commencé à manger, et puis il a été entièrement guéri. Je vous épargne les détails, j'ai plus de temps, Evelyne. Mais ça, c'était le début de sa vie et sa nouvelle naissance qui l'a amené à croire ce que l'a dit la parole au-dessus de tout. Et puis, voilà le témoignage de Kenneth Hagin et sa naissance. On continuera une prochaine fois.
Ouais, génial. Merci beaucoup, Frank. Passionnante histoire, vraiment extraordinaire. On est bénis, on est bénis. Merci beaucoup, Frank, pour ce travail. Et nous, on va se retrouver demain. Notre thème sera « Dieu te voit et il te veut ». Et nous aurons une rubrique « C'est mon histoire ». Nous allons découvrir le très beau témoignage de conversion d'Éric Dufour. Merci d'avoir été avec nous et n'oubliez pas, soyez toujours joyeux. Bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.